Bonjour et bienvenue à Réflexions sur le chemin, un podcast, une balado, ayant pour thème le développement personnel, la spiritualité, le cheminement et l'éveil de conscience. Je me nomme Diane Gagné et je serai votre hôte pour la prochaine émission. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Réflexion sur le chemin. Quelques semaines se sont passées. Je ne sais pas si vous avez eu des vacances cet été, si vous en êtes revenu, si la rentrée scolaire est une réalité dans vos vies et que vous êtes un peu comme tous les parents que je rencontre, un peu bousculés par celle-ci. Enfin bref, moi je vous reviens aujourd'hui, reposée de mes vacances, rempli de belles lumières estivales et de belles chaleurs de l'été. On a eu un été absolument superbe. Et tout doucement, on se dirige vers l'automne, qui est une saison qui, pour moi, est magique. Tous les changements, là, la nature, les couleurs, c'est une période que j'aime beaucoup. Bref, sur ces considérations météorologiques, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Écoutez, ce qui vient, ce qui me vient à l'esprit et ce que j'ai le goût de vous livrer ou de vous dire aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler en fait de ce que moi j'appelle le langage de l'âme. Qu'est-ce que le langage de l'âme? Vous savez, on a jasé, je décide d'en parler maintenant parce que je pense qu'il fallait quand même mettre un petit peu la table sur, bon, qu'est-ce qui était l'éveil, qu'est-ce qui était la conscience, les différents états de conscience, comment tout ceci se manifeste et tout ça. Et ça, je l'ai déjà fait. Donc, à partir de ce stade-ci, bien, je prends un petit peu pour acquis, si vous écoutez cet épisode-là, que vous avez quand même certaines notions, que vous êtes un peu familier avec ce que j'ai couvert dans les émissions précédentes, ou sinon, si vous débarquez ici, bien, que vous avez quand même un minimum de notions relativement un peu au cheminement spirituel et au processus d'éveil en tant que tel, parce que je vais faire référence à certaines notions. Le langage de l'âme, pour moi, ce que c'est, il est à deux niveaux, je vous dirais. Tout d'abord, vous avez la partie qui est reliée à notre être, hein, ce que j'ai appelé des fois l'enfant intérieur, ce que certains en littérature vont appeler l'être intérieur, l'être psychique, le soi à l'intérieur de nous, ce avec quoi on reconnecte à prime abord. Cette première parcelle-là de nous, parce que vous savez, on est un petit peu morcelé et le processus, le cheminement spirituel, c'est un peu de se reconstruire, si on veut, de se déconstruire et de se reconstruire. Donc, la première partie de soi avec laquelle on reprend contact, ben, c'est cet être-là, cet enfant intérieur-là, avec qui on reconnecte, qui est l'essence de ce qu'on est finalement et qui ne change pas. Et cet être-là, il est couvert. Hein? Il est couvert de poussière, il est couvert de tout ce que vous traînez, autant de vie antérieure que de ce que vous traînez dans cette vie-ci, hein? Vos épreuves de vie, ce que vous avez appris, vos conditionnements. Bref, on a déjà parlé de tout ça. Et avant que cet être-là puisse émerger et que vous puissiez clairement et pleinement entendre ce qu'il a à vous dire, Eh bien, il cherche des façons de se manifester à vous. Et une façon qui est connue de tous, c'est le rêve. Hein? Le rêve, c'est une des façons que ce qu'on a à l'intérieur, c'est une de ces façons-là qui prend, entre autres, pour communiquer avec nous. Il va communiquer avec nous aussi via les méditations, pour ceux qui méditent. Hein, et il va tenter de communiquer avec nous de cette façon-là. Et il va aussi communiquer avec nous graduellement par ce qu'on appelle la voix intérieure. Hein, le petit discours, on a souvent l'image de l'ange et du démon, hein, la bonne et la mauvaise voix en nous, hein, comme si on était deux à l'intérieur de nous, ce qui est un peu le cas, hein, parce qu'il y a votre personnalité instrumentale, hein, la personnalité de tous les jours, celle avec laquelle vous fonctionnez dans la vie de tous les jours. Et il y a cet être-là à l'intérieur de soi qui est là et qui attend que vous l'écoutiez pour pouvoir émerger et finalement s'unir à ce qu'on appelle la personnalité instrumentale. Mais pendant tout ce processus-là, pendant cette période-là, quand ça commence à émerger puis à vouloir jaser avec vous, ben ça prend les moyens que ça peut prendre. Et il va beaucoup passer par votre un support qu'on a, l'être humain, qui est absolument fantastique et qui est utilisé autant par votre être intérieur que par les sphères supérieures de l'esprit, qui est votre imagination. Hein, votre imagination, ce qui a nourri votre imagination dans la vie depuis votre tendre enfance, ça va être un support par lequel il va passer. D'où le fait que souvent, hein, nos rêves sont plutôt, peuvent être assez fantastiques, délirants, tout dépendant du type de personne que vous êtes, ou même si vous avez des rêves très, très terre-à-terre et très pratico-pratiques, bien souvent, les rêves, ils vont avoir un aspect très onirique, en ce sens que le début, la fin sont difficiles à cibler, vous pouvez passer un peu comme dans un film, d'une scène à l'autre. Bref, il n'y a pas de cloison. Hein? Quand on arrive dans le domaine des rêves, tout est ouvert, tout est accessible d'une certaine façon. Et c'est ça, c'est pour ça un peu que c'est un véhicule qui est absolument magnifique pour votre être intérieur, pour essayer de prendre contact avec vous. Donc, il va passer par là. Ensuite de ça, bien, si vous êtes familier avec la méditation, plus vous allez avancer en méditation et plus vous allez accéder à d'autres états de conscience, bien, plus vous allez aussi peut-être commencer à entendre des choses, avoir des visions, bon, toutes sortes de trucs de ce genre-là. Donc, ça aussi, c'est un moyen de communiquer avec vous. Et il y a cette voix-là, ce discours intérieur-là aussi, qui tente de communiquer avec vous. Donc ça, je vous dirais que c'est le premier aspect, là, c'est le soin intérieur qui essaie de prendre contact avec vous, de ces façons-là. Mais comme vous pouvez le voir, tout ça, ça passe par votre imagination, d'une part. C'est alimenté par vos croyances, par votre vécu. C'est alimenté par ce que vous êtes en train de lire, de voir à la télévision, par ce dans quoi vous baignez à longueur de journée. Donc, ça sert un peu de tout ça pour vous envoyer des messages. Messages qui, eux, par la suite, sont interprétés au moyen de votre mental. Hein? Votre cerveau de tous les jours, là, qui pense, puis qui réfléchit même sans vouloir réfléchir, le fameux hamster qui tourne toujours, hein? Ben, lui, il reçoit ces messages-là, puis là, il essaie de faire « Ouh, qu'est-ce que je comprends là-dedans? Qu'est-ce que je comprends là-dedans? » Et c'est ce qui fait que c'est difficile, parfois, de comprendre ce langage intérieur-là. De comprendre le langage que cet être-là essaie de nous passer, parce que souvent, il va vous passer un message que vous allez avoir tendance, surtout au départ, à analyser au premier degré et à prendre au sens littéral du terme. Et là, ben là, ça risque de vous embrouiller de façon assez importante, parce que c'est rare, c'est très, très rare que cet être intérieur-là va parler avec vous de façon claire et nette, en tout cas, du moins, pas au départ. Plus ça va aller, plus ça va être clair. Mais au départ, ça peut être assez, à moins que vous soyez déjà quelqu'un qui fasse excessivement confiance à sa voix intérieure, qui est déjà profondément connecté à sa voix intérieure, qui suit ses intuitions, qui suit la petite voix. À ce moment-là, là, vous avez déjà une facilité à le comprendre, à interpréter ce qu'il vous dit, puis à dealer avec cet être intérieur-là. Mais si vous êtes comme moi, je l'étais, absolument pas connecté ou complètement déconnecté. Vous êtes déconnecté avec les années de cet être-là. Ce qu'il vous dit au début, ça peut être assez difficile à interpréter et à comprendre. En tout cas, ce fut le cas pour moi. Je ne veux pas entrer dans les détails ici, mais j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés. Hein? Et puis, je savais que mon mental interprétait à sa façon ce discours-là, mais je ne réussissais pas à comprendre quel était le discours réel qu'on tentait de me transmettre. Et ça a été difficile, je vous dirais, jusqu'au jour où, et moi, c'est un petit truc que je vous donne, peut-être ne fonctionnera-t-il pas pour vous, je ne sais pas, jusqu'au jour où j'ai découvert les archétypes. Comme plusieurs personnes qui ont des notions de base en psychologie, je connaissais Freud, je connaissais vaguement Jung, mais je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui était très clair et limpide dans mon esprit. J'avais déjà entendu le mot archétype, je savais de quoi il s'agissait en gros, mais c'est quelque chose que j'avais appris de façon, je vous dirais, de façon académique lors de cours au niveau collégial. Un petit passage via la psychologie qui m'avait informé sur ça. mais ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié profondément. Et ce n'est pas quelque chose auquel j'ai vraiment songé dans le cadre de mon processus au départ, parce que j'étais tellement bousculée que j'essayais simplement de comprendre le processus en tant que tel. Donc, à un moment donné, on ne peut pas tout lire non plus. Hein. J'avais à faire des choix au niveau de mes lectures. Mais il est arrivé, puis les choses arrivent toujours au bon moment dans ce processus-là. Vous êtes très bien guidés au-delà de même de ce que vous pouvez imaginer. Il est arrivé un moment où j'ai repris contact par le cadre d'une formation. On m'a remis en contact avec les archétypes de façon un peu sommaire dans la formation, mais assez pour me permettre de faire « OK, peut-être que je devrais aller lire de ce côté-là et peut-être que ça peut m'aider. » Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les archétypes, Jung a développé une théorie dans laquelle, essentiellement, ce qu'il dit, c'est que oui, chaque être humain a son subconscient, a sa psyché, mais d'une façon collective dans la société, avec l'évolution de l'homme au fil des siècles et des siècles et des siècles, certains grands champs de pensée, on va appeler ça comme ça, se sont créés. Hein, ils se sont créés et il y a des images, il y a des symboles, il y a des personnages qui, dans l'imaginaire collectif, sont frappants et qui tout de suite vont vous dire quelque chose. Si je vous parle de l'archétype du héros, par exemple, eh bien, tout le monde a sa vision du héros. Hein? Ça peut aller de Achille en mythologie grecque à Superman dans les BD, en passant par Gandhi en Inde, si pour vous, son œuvre représente une œuvre héroïque. On a tous une image dans notre tête quand on parle du héros. Quand on parle de la mère, l'image de la mère, l'archétype de la mère, tout le monde va faire référence à sa propre mère ou à, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être toutes sortes de choses finalement. Bref, il y a des mots comme ça, il y a des personnages, il y a des symboles qui, de façon collective, sont fortement imprégnés dans notre psyché, dans la psyché collective, mais dans notre psyché également. Et ils ont une influence sur nos comportements et ils ont une symbolique qui nous est propre à chacun, qui est majoritairement reliée, je vous dirais, beaucoup à la petite enfance, très souvent, mais ça peut être lié aussi à votre vie en général, des événements de vie que vous avez eus. Mais nous avons tous, en notre fort intérieur, environ 4 ou 5, là, je ne me rappelle pas le chiffre exact, là, je crois que c'est 4 au moins ou 5 archétypes que Jung disait que nous avions tous, qui sont fortement ancrés en nous et qui nous parlent très fort. Donc, ces archétypes-là, ce sont des symboliques qui sont puissantes dans notre imagination, qui sont puissantes dans notre subconscient. Et ce que j'ai compris à force de lire sur les archétypes, c'est que c'est une des choses qui peut vous aider à comprendre comment cet être intérieur-là va communiquer avec vous. Hein? Parce que nous sommes tous ici pour une raison bien précise, qui est principalement de venir vivre l'expérience ici-bas sur Terre. Mais au-delà de ça, nous avons tous une essence profonde qui est axée sur quelque chose, qui peut être du service envers autrui, qui peut être la création artistique, qui peut être du pur génie scientifique. On a tous nos inclinaisons particulières et ce que moi, je me suis rendu compte, et c'était aussi la théorie de Jung, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est que justement, cette, on va appeler ça une mission de vie, cette raison de base pour laquelle nous sommes ici, est souvent fortement liée aux archétypes qui nous animent le plus. Donc, c'est intéressant d'aller fouiller du côté des archétypes parce que ça, au-delà de nous aider à nous comprendre nous-mêmes, ça peut nous aider à comprendre la façon dont l'âme nous parle. Hein? Parce que je ne sais pas, moi, si... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je vais revenir à l'archétype du héros parce que c'est celui que j'ai utilisé un peu plus tôt. Si vous avez un archétype du héros qui est très, très fort et ancré en vous et que vous avez des messages, autant on va prendre les rêves, vous avez des rêves où c'est récurrent, vous êtes un super-héros, vous êtes un combattant, vous êtes toujours dans des rêves à connotation héroïque puis content, tu sais, peut-être contente de vous passer un message via cet archétype-là qui est très fort. Bref, ou ça va vous permettre de comprendre la symbolique au deuxième degré et non pas de vous réveiller en vous disant, coudonc, là, c'est quoi, là, on s'attend à ce que je devienne un héros, on s'attend à ce que je parte au combat, ou on s'attend à ce que je délivre un message, ou bon, bref, vous comprenez qu'à un moment donné, ça devient un peu difficile d'essayer de comprendre les symboliques qui sont utilisées par notre être intérieur pour communiquer avec nous. Et les archétypes, c'est en tout cas, moi, c'est un moyen que j'ai trouvé qui a été très, très utile. Et petite tranche de vie très rapide, si j'ai eu à utiliser ça, c'est que je ne suis pas quelqu'un, je n'ai jamais été quelqu'un qui rêve beaucoup. Bon, vous allez dire, tout le monde rêve. Oui, effectivement. Mais pour une raison X, Y, Z, pendant très longtemps, on ne m'a pas donné accès à mes rêves. Et malgré tous les trucs et toutes les tentatives et toutes les... Écoutez, là, j'en ai essayé des trucs pour essayer de ramener les rêves le matin et tout ça. Bref, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne très peu. Bref, longue histoire courte. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais lorsque j'ai commencé à méditer, ça n'a pas été long que là, on s'est servi de ce support-là pour m'alimenter en information et prendre contact avec moi. L'être, il me parlait via les méditations. Ça pouvait être des visions, ça pouvait être des voix, ça pouvait être toutes sortes de choses, mais j'en ai été troublée parce que même si j'étais consciente là, qu'il y avait une part de mon mental qui n'était pas capable d'analyser puis de décortiquer ce qu'on me disait puis que c'était impossible que ce qu'on me disait, je puisse le prendre au premier degré parce que ça n'avait comme pas de saint bon sens. Je ne réussissais pas à trouver le deuxième degré parce que je n'avais pas cette notion-là des archétypes. C'était comme si, parce que vous faites un rêve, vous le savez que vous êtes dans l'onirique, vous savez très bien que vous ne pouvez pas adapter ça au premier degré. Mais quand vous êtes en méditation et que là, on vous parle, bien là, vous avez tendance à le prendre au premier degré. Là. C'est une conversation. Oui, vous pouvez avoir des fragments de vision, vous pouvez avoir des visions, mais c'est quand même, vous êtes dans un état de conscience plus grand que si vous rêvez. Si vous rêvez, vous allez rêver, vous allez vous réveiller et vous allez vous dire, OK, j'ai rêvé, maintenant, qu'est-ce que mon rêve essaie de me dire? Quand vous êtes en méditation, vous êtes conscient que vous êtes en méditation. Et là, vous entendez ou vous voyez des choses, vous dites, non, 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 mais là, suis-je fou? Suis-je folle? C'est quoi qu'on essaie de me dire? C'est quoi que je dois comprendre? Moi, ça m'a torturé longtemps, je ne vous le cacherai pas, là, parce que je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'on me disait, mais c'était comme, ça n'avait pas de saint bon sens. Mais je ne comprenais pas le deuxième degré de ce discours-là. Et la journée où j'ai reconnecté avec mes symboles personnels à moi, via les archétypes, mais aussi via, je vous dirais, mes symboliques personnels dans la dimension spirituelle aussi, parce que, comme j'ai déjà mentionné, j'étais quelqu'un qui ne croyait plus en Dieu. J'y avais cru jeune, mais j'avais fermé la porte à ça assez rapidement suite à des événements de vie personnels. Et là, on était en train de me reconnecter avec ça, mais comme je n'avais plus de référence et de référencement religieux, je n'étais plus associée à aucune religion particulière, bien là, on tentait de se servir des lectures spirituelles que je faisais et de connecter. En tout cas, j'ai l'impression que mon âme essayait de reconnecter ça avec ce que j'avais vécu dans ma tendre enfance. Et là, en tout cas, ça donnait lieu à toutes sortes de discours intérieurs qui étaient plus bizarres et étranges les uns que les autres. Au moment où j'ai commencé à reconnecter avec mes symboliques religieuses puis à être en mesure de faire des liens entre les lectures que je faisais et mes anciennes symboliques religieuses, là, j'ai fait « OK, là, je comprends ce qu'on essaie de me dire ». Donc, tout ceci pour dire que les archétypes, c'est un outil qui est intéressant, mais tout ce qui est symbolique, dans le fond aussi, c'est le deuxième outil que je pourrais vous donner. Si vous dites « Ouais, ben, moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit, je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télé, je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre, je jardine, je fais du vélo, je ne suis pas dans ces sphères-là », bon, c'est possible. Mais dites-vous que vous avez tous, tout le monde, on a tous une symbolique qui est fortement rattachée souvent à la petite enfance. Donc, reconnectez d'une façon générale, je vous dirais, avec ce qui a alimenté votre enfance en termes de lecture, en termes de films, en termes de loisirs, en termes de conversation avec vos amis, en termes de rêves, quand vous étiez jeune, à quoi vous rêviez, pas seulement les rêves la nuit, mais vos rêves d'enfant, quand vous aviez des jeux avec d'autres enfants. Est-ce que vos jeux, c'était des jeux de guerre, des jeux de rôle, des jeux... À quoi? Est-ce que vous étiez quelqu'un qui jouait à la poupée? Oui, vous jouiez à la poupée. Quelles histoires vous vous inventiez avec votre poupée? Donc, bref, c'est super intéressant de faire cet exercice-là, de s'asseoir et de reconnecter avec toute la symbolique qui est issue de l'enfance, parce que c'est quand on est enfant, c'est une période où on est excessivement connecté avec son essence propre, avec ce qu'on est fondamentalement. Surtout dans la petite enfance, on n'est pas encore je vous dirais, contaminée par les référencements des adultes et les conditionnements sociaux. Et on est très connecté à ça. Donc, on forge toutes nos symboliques à partir de la petite enfance. Et c'est beaucoup via ces symboliques-là que plus tard, dans l'âge adulte, cet être intérieur-là va tenter aussi de communiquer avec vous. Donc, ça, c'est pour la première partie de ce qui compose l'ensemble de ce que nous sommes, parce que nous sommes plus aussi que ce simple être intérieur-là. Cet être intérieur-là, quand vous reconnectez avec lui, bien, c'est magique, c'est merveilleux. Puis après ça, bien, les choses vont être de plus en plus belles parce que vous allez vous retrouver et vos valeurs vont changer et les choses vont changer parce que vous allez vous mettre en accord avec cet être intérieur-là. Et même graduellement, votre personnalité va également changer un peu. C'est sûr qu'à la base, on demeure ce qu'on est, mais il y a des choses qui vont changer parce que cet être-là va faire émerger ce qu'il y a de plus beau dans votre personnalité. Et graduellement, on va tenter de faire le ménage un peu de ce qui est moins beau. Comme je vous ai dit, on ne devient pas parfait. On devient meilleur et c'est un processus qui est en constante évolution et ça ne cesse d'évoluer tout au fur et à mesure de votre vie. Mais bref, il y a ce premier contact-là qui se fait. Et par la suite, ben, il y a un contact avec ce que j'appelle une conscience supérieure à nous qui est au-delà de nous. Hein? Donc, l'être intérieur, lui, il va beaucoup communiquer avec vous via le subconscient. Hein, toute la partie subconsciente, qui vit les rêves, les méditations, ces choses-là, la voix intérieure et tout. Mais là, quand vous allez tomber dans la sphère de la conscience supérieure, parce que, bon, la sphère de la conscience supérieure, on s'entend que vous allez y avoir accès avant même d'entrer, que votre être intérieur ait émergé pleinement. Là. Avant même qu'il y ait une reconnexion complète avec votre être intérieur et tout ça, il y a quand même déjà des choses qui proviennent de la conscience supérieure. La conscience supérieure, elle est là, elle est toujours là. Vous ne faites qu'un avec cette conscience supérieure-là et elle guide vos vies. Elle guide vos vies profondément et elle aussi, elle tente de communiquer avec vous à sa façon, qui est une façon qui parfois peut ressembler à celle de l'être intérieur, mais qui a un aspect plus extérieur aussi, que souvent en spiritualité ou en ésotérisme, on va appeler les synchronicités. Hein? Cette conscience supérieure-là, qui nous guide tous, ce qu'elle veut, c'est le meilleur pour vous. Et souvent, elle va vous envoyer des messages, plein de messages dans la vie. Ça, vous allez en avoir plein. Puis plus on est attentif à ces messages-là, plus on réalise à quel point on est guidé et à quel point cette conscience supérieure-là tente de nous passer des messages. Et ça peut être toutes sortes de choses, hein? D'être à la bonne place, les fameuses coïncidences qu'on ne peut pas expliquer. On fait, voyons donc, c'est quoi la chance que cette chose-là me soit arrivée? Ouais, c'est quoi la chance, justement? C'est peut-être pas vraiment une chance, puis vous devriez peut-être essayer de creuser qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que les choses se sont placées de cette façon-là, de façon aussi extraordinaire ou de façon aussi dramatique, parce que des fois aussi, on vous passe des messages pour vous dire « je pense que tu n'es pas à la bonne place, tu devrais peut-être te ramener au centre, tu es un petit peu trop à gauche ». Donc là aussi, les synchronicités vont vous parler dans le bon comme dans le mauvais, il faut savoir les écouter. Puis à un moment donné, plus vous allez écouter, plus vous allez devenir sensible à ça. Hein? Vous allez vraiment devenir sensible à ça et vous allez vous apercevoir que votre vie n'est faite que de synchronicité. Quand on y est le moindrement attentif, ça va se mettre à vous parler dans des chansons, dans des lectures. Ça va vous amener à faire des lectures. Vous allez lire, vous allez faire « Mais mon Dieu, c'est donc drôle que je sois en train de lire là-dessus. Justement, je pensais à ça la semaine passée. » C'est peut-être pas drôle, c'est peut-être normal. Vous avez amorcé quelque chose, là, vous aviez une interrogation, vous aviez un questionnement. Si vous tombez, pouf, dans les 24-48 heures, dans les 3-4 jours qui suivent, sur votre réponse comme ça par hasard, dites-vous que c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que c'est significatif, la question que vous étiez en train de vous poser, et que là, on vous guide vers une lecture qui va vous permettre de répondre à votre interrogation. Moi, dans la dernière année, vous ne pouvez pas savoir comment la musique m'a parlé. Moi, j'écoute beaucoup de musique. J'ai été baignée dans la musique pas mal dans dans ma vie. Je joue beaucoup dans ces sphères-là. J'ai chanté longtemps. Et puis, j'écoute beaucoup de musique. Donc, dans la dernière année, là, tout ce qui pouvait me popper via la musique, c'était incroyable. Des paroles de chansons, en tout cas, c'était hallucinant. Puis je vous dirais que, bon, c'était quelque chose qui était important dans ma vie. Donc, on a utilisé ce médium-là pour me passer des messages. À vous aussi de regarder ce qui est important dans votre vie, qu'est-ce que vous aimez. Si vous aimez, je ne sais pas, vous aimez les marches en forêt, bien, peut-être être plus attentif quand vous faites une marche en forêt. Hein? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Des fois, ça peut être des rencontres. Vous allez rencontrer des gens, puis vous allez revenir, vous allez dire, ah, c'est donc drôle que j'ai rencontré cette personne-là aujourd'hui, puis qu'on ait eu cette conversation-là sur ce sujet-là. Bien oui, mais peut-être que, justement, ce n'est pas drôle. Peut-être que c'est voulu. Donc, d'être très, très, très attentif aux petits événements fortuits de la vie comme ça, qui nous apparaissent être des coïncidences, mais qui finalement n'en sont tellement pas, c'est une façon aussi que cette conscience-là, cette conscience supérieure-là a de vous parler. Elle va vous parler aussi de la même façon que votre être intérieur vous parle, via vos rêves, via les méditations, via la voix intérieure. À un moment donné, on peut avoir l'impression, moi, il y a un bout de temps, j'avais l'impression d'avoir trois voix dans la tête. Là. C'était carrément ça. Là. J'avais ma voix, j'avais la voix, puis j'avais la grande voix. J'étais, mon Dieu, suis-je schizophrène? J'ai frôlé beaucoup de questionnements de cette nature-là parce que mon éveil a été très rapide. Mais bon, j'ai rencontré des personnes quand même assez extraordinaires qui m'ont permis de me ramener un peu sa traque puis de me donner certains enseignements de ce côté-là. Mais la conscience supérieure aussi, elle peut alimenter votre discours intérieur. Puis peut-être que pour vous, ça va être une seule et même unique voix tout le temps, ou deux voix. En tout cas, bref, il n'y a pas un cheminement qui est pareil. Puis se donner un exemple, j'ai toujours un peu de difficulté à cause de ça, parce que là, les gens commencent à vouloir faire des comparatifs. Mais ça peut être utile aussi à certains qui vont dire « Ah, OK, là, je viens de comprendre. Moi aussi, c'est comme ça que ça se passe. » Donc j'illustre mon cas pour vous donner un exemple, mais si ça ne se passe pas comme ça pour vous, bien, stressez pas avec ça. Là. Ça se passe de la façon dont ça va se passer pour chaque individu. La conscience supérieure va se brancher à vous d'une façon telle qu'elle est sûre qu'elle va être capable de vous rejoindre. Donc, le meilleur moyen pour savoir si vous êtes connecté à cette conscience supérieure-là est de vous connaître et de savoir ce qui vous anime, ce que vous aimez, ce qui est important pour vous, quels sont vos questionnements. Plus vous allez apprendre à vous connaître et à savoir où sont vos zones, où ça vibre dans le cœur, bien, plus vous allez être attentif à ces zones-là dans votre vie et vous allez être en mesure d'y voir des messages. Donc, il y a cette façon-là. Et finalement, je vous dirais que la dernière façon qui, moi, a été la première que j'ai comprise, c'est que la conscience supérieure, que là, j'appelle ici conscience supérieure, mais qui, dans le fond, pour moi, c'est Dieu. Mais Dieu, je vous l'ai déjà expliqué, tant qu'à moi, c'est pas un symbole qui est religieux, c'est un symbole qui est spirituel et qui est universel, qui désigne une conscience supérieure, qui désigne une force dans l'univers, mais une énergie, pardon, mais une énergie qui est consciente, hein, qui est consciente et qui est parfois votre conscience, qui est la conscience universelle de tous et chacun, et qui est la grande conscience, la grande vérité et la grande sagesse que nous devrions tous suivre dans notre vie. Bref, ce Dieu-là, à l'intérieur de nous, bien, moi, je ne l'associe pas à la religion, mais forcément, les gens, consciemment ou inconsciemment, vont l'associer à une religion ou à une croyance. Donc, le meilleur support pour Dieu, pour communiquer avec vous, c'est via la symbolique de vos croyances. Et c'est ce qui rend un peu les choses particulière et à quelque part un peu magique aussi dans l'éveil, c'est que vous allez prendre le récit de 7, 8, 9, 10 personnes qui se sont éveillées. Vous allez prendre les textes sacrés des prophètes qui sont venus ici-bas, que ce soit Bouddha, que ce soit Krishna, que ce soit Jésus, que ce soit Moïse. Bref, vous allez prendre ces récits-là et vous allez vous apercevoir qu'en bout de ligne, toutes ces personnes-là vous relatent une seule et même grande vérité toujours, et c'est toujours celle-là qui revient. Mais la façon dont ça va se véhiculer va être très, 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 très différent en fonction, naturellement, de l'époque où ces gens-là sont venus, où se sont éveillés, mais aussi des croyances qui imprégnaient la vie de ces personnes-là. Parce que c'est comme ça que Dieu communique avec vous. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des gens qui vont vivre un éveil, qui va être très, très, très ésotérique, qui vont vous parler beaucoup d'anges, d'archanges, parce qu'ils vont recevoir une guidance incroyable de ce côté-là. Ils vont vraiment être dans des théories que moi, j'appelle un peu plus « new age », puis c'est bien correct, là, je ne le dis pas de façon péjorative, parce que c'est le dogme de croyance, ce en quoi ils croient dans la vie, c'est ça. D'autres vont avoir un éveil vraiment, je dis mystique, mais le mysticisme n'a pas forcément rapport avec une religion, mais oui, je vais dire mystique, parce que certains vont avoir un éveil qui va être très mystique, en ce sens que la conversation va être vraiment one-on-one avec Dieu. Est-ce que ça va être Dieu au sens de la religion catholique? Est-ce que ça va être Dieu au sens de l'hindouisme, le grand brahman? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va être Bouddha? Est-ce que ça va être Dieu, juste Dieu, Dieu, Dieu pur, là, sans aucun filtre? Bon, ça peut être... Toutes ces réponses sont bonnes. Hein? Puis, bon, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. À mon corps défendant, puis ça a été vraiment, vraiment très confrontant, mais très rapidement, Dieu, là, Dieu, Dieu pas Dieu catholique, pas Dieu, c'était Dieu. Dieu, pas de forme, pas de face, pas d'image, pas de personnage. C'était juste comme une grande énergie universelle. Là. Dieu est arrivé ben vite. Là. Et ça m'a vraiment confrontée. Puis avec le temps, ben là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis que Dieu, c'est pas un symbole religieux, mais au début, ce qui m'a confrontée, c'est que j'associais Dieu à la religion et je ne comprenais pas pourquoi Dieu venait dans ma vie. Enfin, bref, tout ceci pour dire que vous allez avoir des personnes qui vont s'éveiller d'une façon qui est vraiment ésotérique, avec tout ce qui vient avec, le discours des anges, le discours un peu plus New Age. Il y en a même qui vont vous parler de forces extraterrestres, puis c'est correct, là. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, puis je ne vous dis pas que les archanges, les anges existent ou n'existent pas, mais Dieu, il va se servir de tout ça pour communiquer avec vous. OK, ce Dieu-là, cette énergie-là. Il y en a qui vont avoir un éveil beaucoup plus terre-à-terre, qui vont reconnecter très, très, très fort avec eux-mêmes. Et quand la conscience va, la conscience suprême va descendre, ça va être comme juste une unité d'eux-mêmes qui va être vraiment complète et très puissante, mais dans laquelle ils vont être en mesure quand même de ressentir qu'il y a une force plus grande qu'eux qui agit à travers ça. Là. Tu sais, je veux dire, c'est assez difficile de passer par un processus d'éveil spirituel ou de cheminer en spiritualité sans en passer par la transcendance que représente cette conscience universelle-là. Il y a un maître spirituel qui, moi, m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup inspiré, qui est un grand yogi qui s'appelle Sri Aurobindo. Dans ses lectures, Sri Aurobindo faisait parfois référence à Dieu, il en parlait, mais le terme qui revenait souvent dans sa bouche était l'unique. Il l'appelait l'unique. Pour lui, c'était ça. Et pour lui, il n'y avait aucune connotation. Les religions étaient toutes complètement exclues de sa façon de voir la spiritualité, mais vraiment toutes exclues. Il faisait beaucoup de références à l'hindouisme, oui, parce que c'était ses souches, c'était ses racines. Mais comme il a été élevé en Angleterre, c'est pas quelqu'un qui a baigné dans ça, donc je pense pas que son imaginaire collectif ou son imaginaire personnel était vraiment imprégné de cela. Et s'il a utilisé les références qu'il y avait dans les textes sacrés en Inde, c'était pour que les gens s'y retrouvent. Mais lui, la façon dont il en parlait, quand il parlait de l'unique et il s'était pas rattaché à aucun dogme. Aucun dogme. Donc, vous pouvez le voir comme vous voulez, là. Tu sais, mais c'est important de comprendre tout ça. Parce que justement, c'est cette transcendance-là, cette conscience supérieure-là, cette conscience cosmique. Yogananda, qui est un grand yogi également, faisait référence souvent à Dieu et à la conscience cosmique. Lui, c'était sa façon de voir cette force transcendante-là qui est plus grande que nous. Bref, je pourrais vous faire une liste de noms à pu finir, mais peu importe le nom que vous allez lui donner, ça, c'est vous et ça va teinter la façon dont cette force-là va s'adresser à vous également. Hein? Et c'est important d'avoir des symboliques et de comprendre vos symboliques au niveau de vos croyances. Hein? J'ai parlé de vos symboliques comme petit enfant, de revoir un peu vos jeux, dans quoi vous baignez, mais c'est important aussi de revoir vos croyances parce que tout le monde a des croyances, même les athées. Être athée, c'est quelque chose qui, pour moi... Je trouve ça admirable et je trouve ça très courageux parce que c'est un acte de foi ultime de dire « je ne crois qu'en l'humain et je ne crois pas en rien d'autre Je ne crois en rien d'autre qu'en l'humain et lui seul. Ça prend un aplomb et une assurance en ce que nous sommes en tant qu'espèce pour faire ça, qui est un acte de foi qui est aussi grand selon moi que quelqu'un qui exprime sa foi envers Dieu de façon puissante. Alors, c'est une croyance et je vous dirais que probablement que quelqu'un qui est athée va s'éveiller à soi-même très, 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 très longtemps avant d'en arriver à une transcendance parce qu'il va avoir ce step-là à traverser à un moment donné, mais ça n'empêche pas quelqu'un de s'éveiller, mais absolument pas. Donc, c'est important de refaire le tour de tous ces dogmes et toutes ces croyances, même si ce n'est pas une croyance religieuse au sens d'une religion formelle, encore petite tranche de vie, je ne croyais plus en Dieu quand je me suis éveillée, mais je croyais quand même en l'existence d'une force plus grande. Dans ma tête à moi, c'était l'existence d'une force, d'une énergie qui était à la création de l'univers, finalement. J'aimais beaucoup la physique quantique. Quantique, en tout cas, bref, je pense que les deux se disent. J'aimais beaucoup la physique quantique et toute la théorie autour du boson de Higgs, de la création de l'univers. Moi, ça me parlait, tu sais. Mais est-ce que cette force et cette énergie-là avaient une conscience ou c'était simplement un amalgame, une fusion d'énergie qui a fait en sorte que l'univers et la Terre s'est formé, puis que tout ça, c'est une chaîne de hasard et de conséquences, j'aurais pas pu vous le dire à l'époque. Tu sais, je veux dire, moi, je croyais en l'existence d'une énergie, d'une force plus grande que nous, puis ça se limitait pas mal à ça, puis je pense pas que j'avais le goût de creuser la question plus que ça. Puis qu'est-ce qu'on m'a envoyé quand je me suis éveillée? On m'a envoyé de l'énergie. On m'a mis dans mon corps énergétique. C'est ce qu'on a fait dès qu'on m'a réveillée. Et on m'a réveillée avec cette énergie-là. C'est l'énergie cosmique qui a émergé en moi puis qui a monté, paf, d'une shot, là. C'est carrément ça qui s'est produit. Puis je comprends maintenant pourquoi aujourd'hui, si je m'étais mis à entendre un discours intérieur puis que Dieu s'était mis à me parler pendant que je prenais ma douche, j'aurais couru chez mon psychiatre puis j'aurais demandé des antipsychotiques. C'est ça qui se serait passé. Donc, il fallait que je le ressente dans mon corps physique pour être convaincue que ce que je vivais, ce n'était pas une hallucination auditive ou une hallucination visuelle. C'est ce qu'on m'a envoyé parce que c'est ce en quoi je croyais. Donc, refaites le tour de vos croyances, aussi terre à terre soit-elle, aussi transcendante soit-elle, parce que vous pouvez être certain que, hormis les synchronicités de la vie et les messages qu'on va vous envoyer à l'extérieur de vous, pour communiquer à l'intérieur de vous, on va se servir de ça. Donc, c'est un peu ça, le langage de l'âme, et c'est un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est un élément qui, peut-être qu'à ce stade-ci, je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement, dans vos questionnements personnels, dans vos questionnements intérieurs, peut-être qu'à ce stade-ci, vous allez dire « bon, pas tant », tu sais, peut-être que ça ne vous interpellera pas. Mais si vous êtes bien avancé, si vous êtes pas bien avancé, je ne prends pas le bon terme, mais si vous êtes, vous avez une volonté de cheminer en développement personnel et ou en spiritualité, c'est certain qu'un jour ou l'autre, vous allez être confronté à des signes, à des symboles, à des manifestations qui vont aller jouer dans vos symboliques personnelles, dans vos croyances personnelles, et finalement, dans tout ce qui nourrit votre imagination. Quand je vous ai fait un petit cours sur la façon dont je voyais un peu la création de l'univers et la conscience, bien, je vous ai parlé beaucoup de l'idée. Bien, c'est ça. Dieu, à la base, vous pouvez voir ça comme le ramassis total et fusionnel de toutes les idées qui peuvent exister, qui n'existent pas, puis qui vont exister un jour. En tout cas, je ne sais pas exactement comment le dire, mais cette conscience suprême-là, cette conscience supérieure-là, cette énergie aussi, cette force-là, c'est de l'idée à 200%, à 350%, à 10 millions de pourcents, appelez ça comme vous voulez. Puis après ça, ça se décline dans des formes. Hein? Et puis, après ça, bien, ça se décline de plus en plus densément jusque dans la matière. Et dites-vous que même vous, à quelque part, par rapport au concept divin, vous êtes une idée de Dieu. Vous êtes une de ses idées, une de ses manifestations dans la matière. Donc, vous êtes une de ces formes, hein? Vous êtes une de ces idées qui a décliné et qui a pris une forme de plus en plus dense jusqu'à vous incarner dans la matière. Et quand vous reconnectez avec ça, vous reconnectez à ce qu'il y a eu comme idée pour vous. Hein? C'était quoi l'idée qu'il y avait de Diane quand il l'a envoyée ici, quand il l'a créée puis qu'il l'a mis sur ce petit bout de vie-là, là, de terre là, qui est ici là, dans les années 2000. Là, il a fait, OK, ça va être quoi l'idée de Diane? Bon, bien, c'est un peu à ça qu'on recommunique, l'idée, la forme. Et les idées, les formes, les pensées, parce qu'une pensée, c'est une forme, hein? C'est une idée qui prend forme, une pensée. Bon, et tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par le support qu'est votre imagination. Et là, je vous fais un parallèle, je sors un petit peu de mon sujet, mais c'est pour vous illustrer un peu à quel point tout ça est vrai. C'est que ce sont des formes qui transitent par votre imagination, qui sont des énergies et qui vont se densifier de façon plus ou moins solide, tout dépendant de ce que vous voulez faire avec votre idée. Je reprends l'idée, là, je suis en train de vous embrouiller, mais je reviens à l'idée du roman. Hein. La personne a une idée du roman, je vous en avais parlé. Elle va faire son scénario, elle va créer ses chapitres, puis après ça, un jour, elle va s'asseoir à son ordinateur ou elle va s'asseoir devant sa page blanche, puis elle va commencer à écrire. Fait que vous voyez, on part de l'idée, puis on descend dans la forme pour que ça devienne de plus en plus concret, jusqu'à la matière, c'est-à-dire le jour où il y a un livre qui va sortir d'une imprimerie. Bien, tout ce qui transite par votre imagination est de cette nature-là, et d'une énergie de la moins dense à la plus dense, mais c'est une énergie quand même, et ça transite par votre imagination, d'où le fait, et je vous ramène à ce petit parallèle-là qui sort de mon sujet, du subconscient. Hein? On vous parle souvent, en psychologie, on va vous parler du pouvoir du subconscient, on va vous parler du pouvoir de l'inconscient. L'hypnose, c'est un peu ça, c'est des suggestions qu'on va faire dans les champs du subconscient et de l'inconscient. C'est pour vous démontrer à quel point tout ce que l'on crée dans notre imagination, tout ce qu'on met dans notre tête en termes d'idées, ça peut prendre des formes qui peuvent devenir très concrètes. Vous avez des gens qui vont être guéris guéris, j'aime pas le terme, là, mais qui vont se soigner du tabagisme ou de d'autres problèmes via l'hypnose parce qu'on installe une idée, soit celle d'arrêter de fumer, celle que, bon, soudainement, la cigarette a un mauvais goût. On implante une idée dans le subconscient qui, elle, va prendre une forme au gré du temps, de la répétition ou en tout cas de l'action hypnotique, qui va prendre une forme jusque dans la matière, bien, la matière pas solide, là, mais la matière un peu plus dense, qui est le comportement. Ça va changer le comportement. La personne va faire comme « Ah, elle va s'allumer une cigarette. Oh, c'est mauvais. Ça goûte pas bon. » Puis ça fonctionne, là, je veux dire, l'hypnose, là, je vous sors pas un lapin d'un chapeau. C'est reconnu scientifiquement et ça fonctionne très bien pour plusieurs problèmes de santé ou des habitudes ou des comportements qu'on veut changer ou trouver la source d'un problème également. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'idée de base qu'on va implanter dans le subconscient va prendre une forme qui est plus dense et le comportement est quelque chose qui est un agir dans notre corps physique. Hein? C'est quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Donc, c'est plus dense que l'idée de la pensée elle-même. Et ça va devenir jusque dans la matière, en ce sens qu'un jour, le paquet de cigarettes va prendre le bord de la poubelle puis on n'en achètera plus puis il n'y en aura plus. Donc, tout n'est que idée, forme, en mouvement et en densité et en énergie. Donc, ce qu'on se met dans la tête, c'est fou comme on peut conditionner aussi bien et aussi mal qu'on veut nos vies. Si vous mettez du négatif dans votre tête, bien, vous allez générer du négatif. Et si vous mettez du positif, vous allez générer du positif. Donc, quand je vous parle du langage de l'âme, bien, ce sont des choses que vous allez prendre conscience tranquillement, pas vite. Puis, plus vous allez comprendre cette notion-là, d'idées, de formes. Vous allez comprendre un peu le langage de l'âme aussi. Vous allez comprendre que, bon, OK, là, il y a des pensées qui circulent dans ma tête. D'où viennent ces pensées-là? Est-ce que ce sont mes pensées? Parce que ça, c'est l'autre chose aussi que vous allez réaliser à travers le temps. Plus vous allez connecter avec cet être intérieur-là qui est en vous, puis que vous allez comprendre ce qui lui vous dit, ce qu'il essaie de vous dire, puis que vous allez faire le tri de ce qui se passe dans votre tête, bien, vous allez être à même de, justement, voir que toutes ces formes-là, que sont les pensées, Parfois, ce sont vos pensées, mais parfois, ce ne sont pas vos pensées. Donc, tout ça, ça fait partie du langage de l'âme, de comprendre ce qu'on est, comment transitent nos pensées, comment on peut conditionner ce qu'on est via la pensée, via justement ces outils fantastiques-là que sont notre subconscient et notre inconscient, puis via aussi la reconnexion à l'être intérieur, à ce qu'on est, puis à la conscience supérieure. Tout ça, ce sont des choses que vous allez prendre graduellement conscience à force de jaser puis de reconnecter avec ça. Et vous allez comprendre votre univers et votre vie de façon tout à fait différente. Mais bon, tout ce qui concerne justement la pensée, le subconscient et tout ça, là, je dévie un petit peu du sujet primaire qui était l'idée de comprendre le langage de l'âme. Mais plus on comprend le langage de l'âme, plus on comprend comment toute la patente fonctionne finalement. Hein? C'est une bonne vieille expression québécoise, là. Tout ce qui se passe dans notre tête, dans ce que nous sommes et même au-delà de ce que nous sommes, c'est un système. L'univers s'est créé selon certaines lois, hein? Les lois de la physique, les lois mathématiques, ce sont les lois de l'univers. Bien, il y a des lois similaires dans l'idée, dans la forme et dans l'énergie qui habitent l'humain et qui habitent l'ensemble de toute la nature également. Puis quand on reconnecte à soi, puis quand on reconnecte à cette conscience supérieure-là, ce sont toutes ces lois-là qu'on commence à comprendre d'une façon différente, et on commence à comprendre comment travailler avec, les utiliser pour transformer notre vie. Parce que comme je l'ai dit quand j'ai fait l'émission avec Joséanne et avec Alexandre, nous sommes des créateurs. Hein? La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image, Dieu est créateur, nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes des créateurs. Et plus on comprend comment les lois de l'univers et les lois intérieures en nous fonctionnent, bien, plus on devient créateur de sa propre vie, et c'est ça la magie de reconnecter. Donc, 45 minutes, waouh, je suis fière de moi, je vous laisse là-dessus. Je n'en dis pas plus long, je ne sais pas quel sera le sujet de ma prochaine émission. Je fais des petites approches à l'heure actuelle. Je tends des perches à droite et à gauche pour essayer de trouver d'autres collaborateurs avec qui jaser. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis, bon, si vous êtes un peu sur la page Facebook qui est associée au podcast, là, Réflexion sur le chemin, vous allez voir aussi que des fois, j'écris des articles. Bon, l'inspiration à l'écriture commence à revenir en moi. Donc, j'écris autant que je parle, c'est peu dire. Donc, j'ai pas de date pour la prochaine émission, j'ai pas de sujet, puis j'ai rien à vous dire. Fait que vous allez être obligés de venir consulter la page de temps en temps pour savoir où j'en suis puis où j'avance dans tout ça. Écoutez, je vous fais une grosse caresse virtuelle à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Though nothing will keep us together.